L'instant addicto. Bonjour à toutes et à tous, Sophie Delon pour l'instant addicto. J'ai le plaisir de recevoir Clément Grignon, psychologue du travail. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue du travail en médecine du travail. Vous pouvez nous préciser depuis combien de temps, Clément ?
Alors, donc moi j'exerce en tant que psychologue du travail à l'ASSTV, qui est le service de prévention et de santé au travail de la Vienne, inter-entreprise. Et donc c'est la médecine du travail, hein. Donc moi j'exerce depuis 2016.
Donc vous faites essentiellement de la prévention.
Oui, moi j'interviens en prévention auprès des entreprises pour conseiller en fait les salariés et puis les employeurs dans leur démarche de prévention des risques psychosociaux.
Et je voulais aujourd'hui, dans le cadre de cette petite chronique en addictologie, aborder les risques psychosociaux avec vous, parce qu'on se rend compte que les addictions peuvent frôler les risques d'addiction. L'addiction peut rester au pied de la porte et après aller au travail sans être addict, entre guillemets. Mais on peut aussi, à un moment donné, ça peut complètement déborder sur le champ professionnel. Et juste pour introduire Clément Grignon, quelques chiffres de l'INRS qui sont assez récents, 2019-2018. On a quand même 45% de personnes qui déclarent devoir toujours ou souvent se dépêcher au travail. 30% signalent avoir subi un comportement hostile, négatif dans le cadre de leur travail les 12 derniers mois. 27% déclarent devoir cacher leurs émotions, faire semblant d'être en forme et de bonne humeur au travail. 25% disent devoir faire appel à d'autres en cas d'incident. Et pour terminer, 20% craignent perdre leur emploi. C'est quand même beaucoup comme chiffre. Sans compter les arrêts maladie, accidents du travail, on en parlait en off, qui sont énormes et bien entendu sous-évalués. Et pour vous, ça vous dit quoi en tant que psycho du travail par rapport, puisque l'objectif aujourd'hui c'est de parler des risques psychosociaux?
Alors oui, c'est des chiffres qui sont assez éloquents et d'ailleurs que l'on transmet aux entreprises pour sensibiliser aux salariés, aux employeurs. Oui, ça en dit long un petit peu sur l'état de la société vis-à-vis du travail aujourd'hui. Si je peux reprendre un peu le sujet, les risques psychosociaux, pour les définir, ils correspondent en fait à des situations de travail où vont être présents du stress et ou des situations de violence. Violence interne, ce qui va se jouer dans l'entreprise, hein, situation de conflit entre collègues, harcèlement, tout niveau hiérarchique confondu bien sûr, et également les situations de violence externe, ce qui plutôt est à l'œuvre dans les relations avec les usagers, avec le public. En
fait. Ça paraît important de définir le stress, parce qu'on on le connaît peu ou prou, de près ou de loin le stress, mais ça englobe quand même beaucoup de choses qui peut, faut quand même le préciser, nous mener en dehors avec le harcèlement jusqu'au burn-out, comme on dit, l'épuisement professionnel. Donc nous définir aussi, Clément Grignon, ce qu'est le stress.
Le stress est un état de déséquilibre en fait entre la perception d'un déséquilibre entre la contrainte qui est amenée par l'environnement et la perception de ses propres ressources qu'il a pour faire face à cette situation. Dès lors qu'il y a un déséquilibre, la personne se dit, j'ai pas assez de ressources ou de moyens pour faire face à cette situation. Du coup, il y a un état de déséquilibre et donc le stress intervient et donc potentiellement il peut y avoir des impacts sur la santé.
Voilà, c'est important aussi de préciser d'une part que les salariés repèrent difficilement ou pas tout le temps leur souffrance au travail. Ça peut être des collègues, ça peut être un manager, ça peut être une hiérarchie. Et à un moment donné, les risques psychosociaux, les gens les identifient pas forcément. Et les conséquences médicales peuvent être graves.
Alors il y a un moyen, on va dire une grille de lecture pour repérer justement qu'est-ce qui dans le travail peut générer du stress ou des situations de violence.
Vous avez des exemples pour
Oui, j'ai des exemples. Ils sont catégorisés en 6 catégories. Qu'est-ce qui peut conduire à ces risques-là? Tout d'abord, ça peut être tout ce qui est lié à l'intensité, au temps de travail, les rythmes de travail, la charge de travail, surcharge ou sous-charge, le déséquilibre potentiel entre vie professionnelle, vie personnelle. Deuxième thématique, ça peut être toute la dimension des émotions dans le travail. Est-ce que je dois faire bonne figure? Est-ce que je suis exposé à des agressions avec le public? Ça, c'est des situations qui peuvent potentiellement générer du stress. Le troisième facteur, c'est tout ce qui est lié à l'autonomie. Est-ce que j'ai des marges de manœuvre dans mon activité ou non? Certaines attitudes décisionnelles. Quatrième facteur, les rapports sociaux. C'est la qualité des relations nouées dans les équipes avec son responsable. Dimension de la reconnaissance aussi au travail. Le cinquième thème qui est important, c'est la dimension éthique du travail. Ouais. Est-ce que je me reconnais dans le travail que je fais? Est-ce que j'ai le sentiment de faire du bon travail?
Est-ce que c'est les valeurs? Ça correspond à nos valeurs?
Exactement.
Des fois, on peut être en conflit de valeurs avec son employeur et ça va tout plus du tout. On trouve plus de repères.
On parle de conflit de valeurs, c'est-à-dire faire des tâches, des choses qu'on n'approuve pas, devoir mentir éventuellement à l'occasion du travail. Donc autant vous dire que c'est source de stress majeur. Et le dernier facteur, c'est l'insécurité au sens socio-économique, la peur de perdre son emploi, le chiffre qui a été évoqué, peur de perdre son emploi, des risques de restructuration dans l'entreprise, etc. Donc vous voyez, il y a 6 facteurs, 6 grandes catégories qui permettent de comprendre un petit peu qu'est-ce qui peut dans le travail conduire à ces situations de stress.
Et comment les personnes peuvent, Clément Grignon, comment comment ces personnes peuvent repérer à un moment donné ces signaux qui sont là. Vous avez pu, de par votre expérience depuis 2016, repérer à peu près quels sont les signaux les plus récurrents, on va dire.
Alors, sur le plan de la santé, du coup, oui. Lorsqu'on est exposé à du stress chronique, hein, parce que c'est ça, à un moment donné, on s'expose à une organisation qui est délétère et donc va avoir un impact sur l'état de santé. Bon, ce qui peut être repérable, en premier lieu, c'est tout ce qui est troubles du sommeil. Hein, c'est des choses qu'on peut voir assez, facilement, des personnes qui, vont être un peu plus en retard, vont être moins ponctuelles, alors que ce n'est pas dans leurs habitudes.
Ça peut être l'inverse aussi, des personnes qui vont être en retard, puis d'autres qui sont trop dans le présentiel.
C'est ce qu'on appelle le présentéisme, c'est l'inverse de l'absentéisme. Mmh. Donc ça, c'est aussi un signal qui peut alerter. Ce qu'il faut avoir en tête sur ces signaux-là observables, c'est finalement tout changement de comportement, dès lors qu'il y a un comportement qui n'est pas habituel. On connaît nos collègues, hein, on connaît un petit peu les équipes, et si on distingue qu'il y a un changement de comportement radical, ça peut venir interroger. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme signe? Ça peut être aussi des troubles de la mémoire, tout ce qui est de la sphère cognitive. Mmh. Personnes qui ont plus du mal pour se concentrer, qui font plus d'erreurs, d'oubli, etc. Ça, c'est des choses aussi qui peuvent interpeller. Là encore, d'autant plus si on connaît bien les collègues, on se dit « Ah, c'est peut-être pas normal qu'ils réagissent
comme ça. » Un désintérêt par rapport à son travail, un désengagement par rapport à son activité.
C'est ça. Ça peut être des stratégies de défense pour mieux faire face, justement, à ce contexte de travail dégradé. Certains peuvent se désengager comme pour mieux résister, puis mettre un petit peu à distance les choses. Et ça peut bien sûr conduire après à des conduites à risque et à des conduites addictives. Ça peut être l'une des conséquences parmi tant d'autres, bien sûr.
On fait une pause musicale. Vous avez choisi quel morceau, Clément Grignot ?
Pink Martini, Je ne veux pas travailler.
On écoute.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas
Clément Grignot, donc vous êtes psychologue du travail en médecine du travail sur le département de la Vienne. Vous intervenez en prévention. On a abordé jusqu'ici les risques psychosociaux et les conséquences médicales en signalant un petit peu comment les addictions peuvent se glisser là-dedans. Et là, j'aimerais pour cette seconde partie qu'on puisse aborder un peu plus dans les risques psychosociaux, dans la souffrance que les salariés peuvent rencontrer à travers le stress, à travers une agression qui peut être en interne ou en externe dans le lieu de l'entreprise, comment elles réagissent. Et des fois, on se rend compte que l'addiction addiction, elle peut être installée dans la vie des personnes pour plein de raisons depuis X années, mais que le travail, comme on peut citer des fois le woke alcoolisme, hein, c'est je travaille et pour tenir mon travail, j'ai besoin de décompresser et en rentrant, je bois beaucoup d'alcool. Mais comment les addictions peuvent justement être un signal aussi
Ça peut être des personnes effectivement qui vont petit à petit glisser vers une addiction pour en quelque sorte tenir dans des conditions qui sont délétères. Donc c'est comme un palliatif finalement, qui soit, ça peut être laissé à la porte de l'entreprise effectivement, ou alors ça peut venir après dans les cas extrêmes envahir carrément la personne dans son travail.
Est-ce que la Covid, avec le recul qu'on peut avoir, elle a mis en difficulté beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants, beaucoup de collégiens, de lycéens? Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau des salariés, ce télétravail pour certains qui a été imposé, et pour d'autres, on se rend compte que les écrans ont énormément augmenté, pas tant que ça au niveau de l'alcool. Est-ce que vous, là, le recul sur 3 années, vous l'avez en tant que psycho du travail ou non?
Alors c'est difficile, c'est plutôt ma perception à moi, mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de sensibilisation sur le télétravail et on s'est rendu compte que le télétravail pouvait être à risque justement de développer des conduites addictives, puisque alors j'ai vu le cas d'une salariée qui m'avait expliqué être en télétravail forcé, un petit peu comme nous tous, en tout cas les métiers télétravaillables, et elle me disait moi mes journées étaient rythmées différemment, j'avais pas mes collègues, mon travail était différent, et donc au quotidien moi j'avais mon frigo qui était accessible, mon placard avec mes gâteaux, etc. Et elle me disait, je me demande si je suis pas en train de développer une addiction au sucre, en tout cas à l'alimentation, son rapport à la nourriture.
C'était compulsionnel, complètement.
Des compulsions, comme pour faire face à cette période qui était quelque sorte inhabituelle et très fragilisante pour beaucoup.
Inédite. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas dans votre expérience depuis que vous avez pris ce poste de psycho du travail en prévention, d'autres cas de personnes où vous êtes rendu compte que les addictions, certains produits ou conduites addictives, est rentré dans la vie des salariés?
Oui,
par
alors, hors Covid, j'ai déjà vu des salariés qui, pour tenir, augmenter leur consommation d'alcool, c'est des choses qui me verbalisent à l'occasion de mes entretiens. Certains peuvent aussi se réfugier dans le sport. J'ai vu au moins 2 salariés dans ce cas-là.
La bigorexie, la nomme. Ouais.
Qui, comme pour tenir finalement, ou décharger peut-être même une espèce de souffrance intérieure finalement, passer leur temps dans des pratiques sportives très très intensives.
Excessives.
Très excessives. Et puis bien sûr, le tabac, c'est des choses, personnes qui soit ont arrêté de fumer, se remettent à fumer, ou augmentent drastiquement leur consommation. Là encore, avec pour effet, en tout cas psychiquement, de tenir dans un contexte de travail assez dégradé en fin de compte.
En sachant que ce sont des personnes qui ont osé vous en parler, le tabac est un peu moins moralisateur, mais l'alcool, ou de se dire je fais beaucoup, beaucoup de sport, en sachant que le fait de faire beaucoup de sport de façon intensive et de façon addictive, ça reste encore bien vu, mieux vu que de boire beaucoup, beaucoup d'alcool. Mais où est-ce qu'on peut se dire aussi à contrario que les gens n'osent pas trop en parler dans les entreprises? Est-ce que c'est quelque chose dans les préventions de risques que vous pouvez aborder, ou est-ce qu'on sent qu'il y a encore une omerta par rapport à ces sujets alors qu'ils sont partout dans la société?
Oui, mais c'est assez facilité, ils vont m'en parler puisqu'ils viennent me voir pour... justement exprimer, verbaliser leurs mots, tout ce qui les a conduits à cette souffrance au travail. Par contre, mes collègues qui, eux, sont sur la partie médicale, donc les médecins du travail, les infirmiers, à l'occasion des visites médicales, abordent de toute façon cette question-là des addictions éventuellement. Donc il peut y avoir des repérages à ce niveau-là. Et il faut savoir que tout salarié peut à tout moment se rendre chez son médecin du travail en toute confidentialité à l'occasion d'une visite médicale pour exprimer à un moment donné s'il y a une question en lien avec le travail, une difficulté, qu'elle soit d'ordre psychologique ou physique, plutôt des mots plutôt physiques. Les personnes peuvent tout à fait solliciter leur médecin.
Oui, parce qu'il faut savoir quand même que la consultation de médecine du travail obligatoire de la part du salarié est passée à 5 années. Mais si un salarié se sent dans un mal-être, se sent harcelé, se sent agressé à une période qui est vraiment difficile, parce qu'on peut avoir de concomitances, notre vie personnelle qui peut résonner avec la vie professionnelle. On n'est qu'humain, rien qu'humain. Donc je pense que c'est important de redire par la radio que n'importe quel salarié peut aller voir quand il le souhaite son médecin du travail.
À tout moment, tout anonymat. Oui. Et c'est quelque chose, il n'y a pas de coût non plus. C'est l'employeur qui paye pour bénéficier des services de la médecine du travail. Donc tout salarié peut à tout moment se rendre chez son médecin du travail. Et c'est important, justement, ça peut être la porte d'entrée derrière pour une orientation de ces personnes qui peuvent être en difficulté, en souffrance.
Tout à fait. Merci Clément Grignon. À la semaine prochaine. l'instant addicto.